Astrojet, whisper Astro jet, clipper jet, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez à Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les peaux, aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie qui venait de partir. Sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient le ballon. Dans le vent, c'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, Et moi, je suis rendu à dos du chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je ne sais plus où je suis. Je suis rendu. J'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la première rencontre internationale des radios libres qui a eu lieu cet été au mois d'août à Montréal. Notre envoyé spécial pour Radio Pleine Lune et Radio Zone va se faire un plaisir de nous raconter tout ça. Alors, cher ami, qu'est-ce que c'était que cette rencontre internationale des radios libres ?
Alors, c'était l'Assemblée mondiale des artisans des radios communautaires. C'était donc une assemblée internationale de toutes les radios de type communautaire. Pourquoi cette assemblée ? Il faut dire que cette année, c'est l'année internationale des communications. C'est donc ces fameuses années plus ou moins bidons choisies par l'ONU. Et ce qui est un peu spécial, c'est qu'en fait, rien n'a été organisé dans le cadre de l'ONU sur ce thème. Il n'y a eu aucune des rencontres. Alors, un groupe de Québécois, des radios communautaires du Québec, ont décidé d'organiser cette réunion et ont pris contact avec des radios françaises. Et c'est en fait un groupe franco-québécois qui a organisé cette assemblée. Et je crois que l'organisation de l'assemblée même a pris plus d'une année, puisqu'il fallait contacter toutes les radios, faire un topo sur la situation des radios dans les différents pays, trouver les gens qui viendraient, trouver les thèmes de discussion.
Est-ce que c'était soutenu financièrement ou autre par l'ONU ?
Non, pas par l'ONU, mais par l'Office franco-québécois de la jeunesse, qui a payé entre autres partie des voyages des radios françaises, et par les ministères des télécommunications au Québec, qui ont donné la salle, qui ont organisé un studio. Ça se passait à l'UNI, à l'Université du Québec. Et il y avait un studio d'enregistrement qui retransmettait directement sur les deux radios communautaires du Québec une partie des débats, des interviews. Alors, bon, cette assemblée, c'était donc une semaine au début d'août. Et c'était, bon, déjà au niveau de l'ambiance, c'était assez fantastique. Il y avait 500 radios. Alors, on se sentait assez... Bon, c'est toujours un moment très excitant quand on arrive dans une de ces assemblées, puis on sent qu'il y a tellement de gens qui font plus ou moins la même chose que soi, même si de fait, après on s'est rendu compte que c'était pas si la même chose, qu'il y avait beaucoup de différences. Mais il y avait ce moment de dire, bon, 500 radios dans le monde, et puis c'est uniquement une toute petite représentation des milliers de radios communautaires qu'il y en a dans toutes les parties du monde, dans les coins les plus reculés de l'Alaska, en Afrique, en Amérique latine, en Europe. Partout, il y a ce courant des radios communautaires. Après, bon, on va peut-être parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est dit, quels étaient les thèmes de discussion de cette assemblée. C'était, bon, il y avait beaucoup de thèmes de discussion et l'assemblée avait beaucoup d'ambition.
Peut-être qu'il faudrait d'abord dire qui étaient les participants, les types de participants.
Les types de participants, alors c'était donc des artisans des radios communautaires. C'est des gens qui font de la radio communautaire. Alors effectivement, ça veut dire beaucoup de choses, parce que radio communautaire, c'est absolument pas la même chose en France, en Amérique, chez les Indiens, à Tamek du Canada, en Amérique latine, en Afrique, ça a vraiment une autre signification, un autre type de pratique. Mais ça, bon, c'est un point sur lequel je reviendrai. Sinon, c'était vraiment des gens qui faisaient la radio, qui étaient soit producteurs d'émissions, soit techniciens dans des radios de type communautaire, c'est-à-dire des petites radios locales insérées dans une communauté, radios de type associative, c'est-à-dire où il y a des gens, des associations qui, autour de là où est l'émetteur, qui ont une participation dans la radio. Et où le rapport entre ceux qui font la radio et ceux qui l'écoutent voudrait être différent de ce qu'on a dans les radios officielles, la plupart qui sont des radios monopoles, soit des radios officielles, soit des radios privées, commerciales. Mm-hmm. Bon, à part ça, c'était très... au niveau des gens, il y avait vraiment... les premières radios qui sont présentées, c'était les radios indiennes, amérindiennes. Et moi, c'était un peu une révélation, parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir des radios de Sioux, d'Iroquois, d'Esquimaux, des Montagnais, d'Atamek, tout ça. Je ne savais même pas que ces tribus existaient. Elles sont toutes venues, et il y a des milliers de radios amérindiennes. Et ça, bon, au niveau de la couleur locale, c'était vachement excitant, parce qu'il y avait tous ces gens. Sinon, il y avait beaucoup, beaucoup de Français, parce que la radio, donc comme j'ai dit avant, l'Office franco-québécois ayant payé une partie des voyages et de plus étant partie prenante de l'organisation de l'Assemblée, il y avait une très très forte délégation française. Il y avait donc toutes ces radios amérindiennes qui sont principalement québécoises ou de l'Alaska, des radios du Québec et du Canada. Parce que le Québec, c'est un pays, je ne savais pas, j'ai toujours parlé du Canada, mais c'est le Québec. Il y avait des radios d'Afrique, quelques-unes, très peu, quelques-unes d'Amérique latine, des radios, bon, beaucoup de radios d'Amérique du Nord, une radio australienne, quelques radios anglaises, des radios scandinaves, des radios italiennes, allemandes. Je crois que c'est tout. Oui. Donc ça faisait un mélange, un très très grand mélange de gens, mais aussi, et puis aussi de préoccupations et de pratiques de radio. C'était très, très diversifié.
Et quels étaient les thèmes dont vous avez discuté?
Alors, l'assemblée était organisée comme ça. Il y avait ce qu'ils ont appelé des panels, c'est-à-dire des grands thèmes de discussion. Et ensuite, ces thèmes étaient fractionnés en ateliers. Alors, il y avait plusieurs ateliers qui se passaient en même temps. Alors, les panels, le premier panel, c'était, avec pour titre, « Une radio communautaire, est-ce que c'est un courant alternatif ?» Donc, est-ce que c'est autre chose qu'une radio privée ou une radio d'État ? Est-ce que la radio communautaire a une place à soi dans la communauté ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est complètement en dehors ? Est-ce que c'est vraiment inséré ? Est-ce que une radio communautaire est un outil de changement social ? C'est-à-dire, est-ce que c'est inséré dans une dynamique de changement social ? La question des radios rurales dans les pays en voie de développement. Est-ce que les radios communautaires... Et donc le rapport des radios communautaires et des luttes de libération nationale, ça c'était surtout le cas des radios latino-américaines. La promotion des femmes dans les radios communautaires, est-ce que les femmes ont une place dans les radios communautaires? Et comment construire un réseau de ces radios communautaires qui soit une coalition pour un changement social? Donc ça c'était le premier panel. Le deuxième panel, une question très intéressante, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'écoute ? Et donc, qu'est-ce qu'on pense de notre auditoire ? Quel est le jugement que l'auditoire a de notre radio ? Un atelier qui s'appelait « Au-delà de la cote d'écoute », est-ce que les radios communautaires sont reliées aux besoins de l'auditoire ? Est-ce qu'on a un public cible ? Comment est-ce qu'on peut le mesurer ? Quel type de publicité on peut faire par rapport à l'auditoire, c'est-à-dire comment augmenter l'écoute de la radio, comment promouvoir la radio communautaire, quel est le rapport donc avec les auditeurs, comment eux ils peuvent intervenir dans la radio, est-ce que par exemple on peut téléphoner ou est-ce qu'il y a des sondages, enfin, le type de rétroaction, ou est-ce aussi la participation des auditeurs à l'omission. Comment un atelier qui s'appelait d'oreille à bouche, qui était une tentative de trouver des moyens pour démocratiser la communication, c'est-à-dire offrir au public les moyens concrets d'utiliser les outils de communication, c'est-à-dire que les studios soient ouverts, que les gens puissent entrer, puissent venir, téléphoner. Former aussi des bénévoles, que les bénévoles aient un rôle dans la radio. Et un atelier qui s'appelait donc « Des femmes à l'écoute ». Des émissions féministes, des émissions féminines, est-ce que on peut développer, est-ce que les émissions de femmes sont nécessairement antisexistes, enfin toute la question de comment, est-ce qu'il y a un auditoire spécifiquement féminin, est-ce qu'on s'y adresse en tant que femme. Le troisième panel, la radio communautaire peut-elle être communautaire? Est-ce que c'est vraiment un courant alternatif et comment s'exprime cette façon alternative autrement que par une mauvaise qualité de l'émission. L'environnement sociopolitique et le cadre juridique, ça c'était une présentation de chaque pays, de montrer quelle était la situation dans chaque pays. Dis-moi qui te paye et je te dirai qui tu es. Le financement des radios, comment elle se finance et est-ce que le financement va intervenir dans la liberté de la radio, le champ d'action.
As-tu appris des nouveaux trucs pour financer une radio?
Non. Bon, le problème c'est qu'il y avait beaucoup trop d'ateliers, j'ai absolument pas pu participer à tous. Bon, justement, des idées d'autocollants, de radiotons, etc. Et toujours un atelier sur les femmes. Dans chaque panel, il y avait un atelier prévu pour les femmes. La place des femmes dans les radios communautaires. Quel est le pourcentage de femmes qui travaillent dans les radios communautaires? Et quel est le temps d'émission, temps total de temps d'émission qui est fait par des femmes? tout le pouvoir aux communautés, le rôle de capacité de participation et d'autodétermination des femmes et des hommes dans tous les domaines, donc dans la radio, que la communauté soit vraiment partie prenante de la radio. Les associations, qu'est-ce que ça donne? C'est donc toujours dans le cadre du financement, et un atelier sur la publicité. Est-ce qu'on est pour ou contre la publicité comme mode de financement? Panel numéro 4, ça s'appelait « Un arbre qu'on juge à ses bruits », et c'était le thème « Qu'est-ce qui fait l'originalité de la production des radios? Qu'est-ce qui fait la spécificité du son communautaire? Et quelles sont les principales orientations de la production des radios ?» Il y avait le problème de l'information, un nouveau type, une nouvelle conception de l'information. Est-ce que aussi dans la conception de sa grille horaire, c'est-à-dire qui fait la programmation, qui est produit, est-ce qu'il y a des bénévoles, enfin le rapport de démocratie à l'intérieur de la radio, et les émissions éducatives et le développement. La culture en ondes, quel type de culture on va mettre dans ces ondes culturelles, quel type de musique. Et aussi, est-ce qu'on pourrait trouver une autre forme de publicité qui soit vraiment communautaire? C'est les radios de service, voilà, la publicité du genre, il y a une vente dans tel magasin, celui-là vend une auto, enfin c'est une publicité qui est plus liée aux besoins de la communauté. Et la production expérimentale, créer des nouvelles manières de faire des radios, et bien sûr, donc toujours le dernier atelier sur les femmes, la production des femmes. Et un atelier numéro 5 qui sur la technologie, entre l'accès et l'excès, je n'y ai pas participé. Un sixième atelier qui s'appelait « Une radio pour les femmes, une radio de bonnes femmes ». Est-ce qu'une radio de femmes est différente des médias? Est-ce que les femmes ont pu prendre une place dans la radio? Quel rôle joue la radio face aux questions de discrimination à l'égard des femmes? Comment la lutte et les revendications des femmes rejoignent les objectifs de la radio? Comme tu vois, c'était très dense, très touffu et très riche, un peu trop. En tout cas, moi, j'ai absolument pas pu participer à tous les ateliers parce qu'il y avait 3 ateliers en même temps, plus d'autres qui se sont ajoutés, hein, entre autres sur la programmation pour les détenus, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de radios font des radios pour les tôlards, pour les prisonniers. Il y avait ce thème qui a été mis sur comme un nouvel atelier. En plus, il y avait des panels où les pays se présentaient, il y avait des présentations nationales où chaque pays présentait l'état de la radio. Donc il y avait beaucoup trop de choses, en tout cas pour quelqu'un qui était seul comme moi, et Radio Pleine Lune et Radio Zone étant trop pauvres pour envoyer plus d'une déléguée, je ne pouvais absolument pas couvrir tout.
Mais qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de cette grande bastringue des radios?
Bon, à part ce sentiment, comme j'ai parlé au début, d'être très excitée, les radios étaient beaucoup trop différentes. Il y avait donc des radios une radio communautaire, le lien à la communauté, c'est un thème, mais en fait, là-dedans, il y avait trop de tendances, parce que qu'est-ce qui rapproche une radio de guérilla comme la radio Venceremos du Salvador, une radio du Nicaragua qui est vraiment une radio insérée dans un mouvement de libération, des radios du Chili qui étaient des radios de lutte, de mouvement. Après, il y avait les radios, par exemple, rurales africaines, qui étaient presque toutes des radios soit initiée ou impulsée par l'UNESCO ou par le gouvernement, avec un thème éducatif, donc c'est encore une autre histoire. Bon, ces fameuses radios d'Indiens, je les aime beaucoup, mais elles ont aussi un autre rôle. Les Indiens, ils vivent dispersés parfois, je sais pas, 500 km de leurs voisins, donc la radio, c'est vraiment un outil communautaire, c'est pour parler à son voisin, mais c'est vraiment pas le même le rôle que nous. Les Américains, c'est des radios privées qui existent depuis toujours. Il n'y a jamais eu de monopole de la radio, donc c'est des radios qui existent avec, depuis parfois, il y en avait une qui était depuis 1949, donc avec une vieille histoire, c'est des grosses radios, avec un budget, avec une organisation, directeur de la programmation, directeur technique, donc c'est tout autre chose, même si elles se veulent insérer dans un projet politique. Les radios allemandes, c'est des radios pirates. Alors, ils étaient très sympas. Ils sont arrivés pour nous raconter comment ils faisaient, comment ils devaient changer d'émetteur tous les 2 minutes parce que les flics leur couraient derrière, comment ils faisaient des émissions très courtes, comment les cassettes leur arrivaient, enfin, toute l'histoire qui est autour des radios pirates. Bon, les radios françaises, il y en avait beaucoup, mais là aussi, les radios... il suffit d'écouter autour de Genève pour savoir la différence qu'il y a entre toutes ces radios... local, ça va de la radio qui se veut, qui est crypto-publicitaire, à la radio qui est simplement une radio musicale, peut-être un peu mieux, mais pas plus, à la radio politique, à la radio rurale, enfin, il y avait toute la gamme des radios françaises. Les radios anglaises aussi, c'est aussi des radios qui ont une un peu comme les radios américaines, c'est de fait des radios privées, ou alors terrible, il y avait par exemple un Écossais incroyablement nationaliste pour la libération de l'Écosse, alors c'était une radio qui parlait avec un dialecte écossais, donc toutes ces radios c'était très très différent, et on a pris beaucoup de temps simplement à dire oui mais chez nous c'est pas comme ça, mais chez nous on est... ça veut pas dire la même chose, simplement à se mettre d'accord sur les termes avant de vraiment pouvoir construire quelque chose ensemble.
vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune, 5,4 MHz. Nous continuons l'émission d'aujourd'hui qui nous parle de la rencontre internationale des radios à Montréal. Notre envoyée spéciale, ici présente, va nous raconter maintenant ce qui se passait du côté des femmes. Il y avait donc de nombreux ateliers consacrés à la place des femmes dans les radios communautaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces ateliers ?
Oui, alors, il y avait eu la préoccupation dans cette assemblée de laisser s'exprimer les femmes et de que les femmes puissent se retrouver. Donc, il y avait toute une série d'ateliers et un panel tout entier sur les femmes. Et en fait, ça montre aussi la volonté des femmes qui ont organisé cette assemblée à ce que il y a cette place. Elles ont dû se bagarrer pour que cette place ait lieu.
Le panel comportait aussi, donc tout le monde participait au panel, ou bien ?
Les panels, oui, disons les panels, c'était... les panels, c'était une série d'orateurs ou d'oratrices qui présentaient une situation, donc ils avaient déjà un texte sur lequel ils avaient travaillé, et donc pour le panel femmes, c'était que des femmes qui présentaient, mais bon, le public était mixte. Les ateliers, c'était plus des discussions sur des thèmes plus précis.
Et il n'y avait que des femmes dans les ateliers ?
De fait, il n'y avait que des femmes. Mm-hmm. Parfois, il y avait un homme qui arrivait, mais disons... En tout cas, c'était les femmes qui parlaient. Alors, il y avait tous ces ateliers sur la place des femmes dans les radios, la production des femmes, le type d'écoute qui était... la rétroaction donc, de l'auditoire féminin, et aussi un atelier sur comment les techniques d'interview pour des femmes, parce que les femmes, elles ont très peu pris les micros historiquement, et c'est dur souvent pour des femmes de parler au micro ou de faire aussi est-ce que les femmes font la technique, est-ce que les femmes sont dans la direction du programme, s'il y a une direction, si dans la direction de la radio, donc si elles sont à des places décisionnaires dans la radio. Alors ces ateliers. Ils étaient très suivis, il y avait toujours entre 30, 50, 80 femmes qui assistaient, donc c'était très intéressant. Mais là aussi, il y avait ce problème de femmes qui venaient d'horizons très différents, et on a pris beaucoup de temps aussi pour dire « oui, mais chez nous, c'est pas comme ça ». Par exemple, les Américaines, qui sont des radios institutionnalisées, elles disent « les femmes, elles doivent devenir directrices, c'est le seul moyen pour que les femmes aient le pouvoir dans une radio, c'est comme ça qu'il y aura plus de femmes qui participeront, les programmes ». Et puis nous, on disait « mais nous, c'est pas tout à fait comme ça, on essaye aussi de gérer la radio de façon moins hiérarchisée ». Donc il y a eu pas mal d'affrontements et sur ces points. Et puis toute la question de quel type d'émission on fait. Est-ce qu'on fait une émission féministe ? Est-ce qu'on fait une émission de femmes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors beaucoup de femmes étaient très défensives et disaient « mais nous on ne fait pas des émissions féministes, on veut atteindre un auditoire plus large, très large, donc on ne peut pas parce que je fais une radio dans l'Alaska et moi j'ai que des pêcheurs réac qui m'écoutent, moi... je ne peux pas parce que je veux pas parler que de ça. » Et donc, c'était assez dur aussi de dire « oui, mais en fait, si on est là, on fait quand même des émissions qui essaient de montrer une femme qui est différente, une image de la femme qui n'est pas celle qui est retransmise par les médias, parce qu'en fait, les médias parlent des femmes tout le temps, mais c'est des femmes ménagères, des femmes mannequins, des femmes... dans des rôles conventionnels. Et donc on disait mais nous on veut faire des émissions qui parlent de tout mais qui mettent en avant une image d'une femme qui sort un peu de ses normes. Et il y a eu un peu des conflits. On disait mais en fait si vous êtes là vous faites pas des recettes de cuisine, on pense pas que vous êtes venu à Montréal pour parler de comment vous faites une émission de recettes de cuisine. Donc c'était des débats assez tendus. Il y a eu aussi un épisode qui est à la fois anecdotique, mais qui, moi, je trouve intéressant parce qu'il montre un peu la place quand même qu'ont les femmes dans les radios. Elle est pour moi très significative. C'est le fait que dans un de ces panels où il y avait toujours des problèmes de traduction, puisque la moitié était en tout cas anglophone et francophone, il y avait aussi pas mal d'espagnol, donc il fallait toujours traduire. Et dans ce cas-là, c'était une femme québécoise qui traduisait de l'anglais en français, du français en anglais. Et chaque fois qu'une femme de l'atelier prononçait le mot lesbienne, elle ne le traduisait jamais. Et ça s'est passé 3-4 fois. Et à la fin, bon, il y a eu un peu une engueulade. Et pour moi, c'est très significatif du fait que si on laisse absolument, on occulte tellement la place des lesbiennes, c'est aussi d'une manière occulter la place des femmes. Donc, à la fois, ça m'a beaucoup plu de voir qu'il y avait tellement de femmes dans la radio, mais à la fois, je sentais que beaucoup étaient très défensives à vraiment s'affirmer comme femmes... autonome, en lutte, féministe, bon, disons le mot, quoi. Et de fait, même si on voit qu'il y a beaucoup d'émissions de femmes, il y a très peu d'émissions de femmes qui veulent vraiment mettre en avant autre chose.
De quel pays, grosso modo, venaient ces femmes, enfin, quelles étaient les principales, disons, radios qui étaient représentées là?
Il y avait des radios de femmes, et ça c'était intéressant, parce qu'il y en a très très peu. Là-dedans, il n'y en avait que deux. Bon, si on nous compte, nous, deux et demi. Il y avait les nanas radioteuses de Paris, dont on a déjà parlé une autre fois, qui sont vraiment une radio de femmes, et une radio fantastique, en fait, moi, qui m'a beaucoup plu, de norvégienne, qui s'appelle Radio Oracle, qui émettent à Oslo 10 heures par semaine, et elles sont 80 femmes pour faire cette radio. Et bon, elles essayent de vraiment faire justement de parler de tout, mais d'un point de vue de femme. Et c'était une des radios qui je trouvais était le plus proche de nous. Sinon, il y a des émissions de femmes un peu partout. Bon, il y avait beaucoup de femmes américaines. Là, il y a beaucoup d'émissions dans presque toutes ces radios communautaires. Il y a des émissions de femmes. Des radios du Québec aussi, où il y a une émission de femmes régulière. Des radios de Scandinavie, où commencent maintenant des radios à Copenhague, en Suède. Il y avait des radios, des émissions de femmes. Bon, de France, il y en avait quelques-unes dispersées. Et des anglaises. Et puis des latinos, il y avait des latino-américaines. Il y avait une femme du Costa Rica qui dirige une radio sur la frontière avec le Nicaragua, une radio communautaire. Et une femme du Nicaragua, donc, qui représentait la radio du Nicaragua, qui était aussi une femme. Et c'est tout, je crois, plus ou moins.
As-tu appris quelque chose d'utile qui pourra nous servir pour faire nos émissions à Radio Pleine Lune?
Oui. Bon, il y avait un atelier qui s'appelait les techniques d'interview, qui moi m'a beaucoup plu parce qu'il était très concret. Et c'était une femme, bon, qui... Elle partait un peu des problèmes qu'on a, nous, en tant que... artisane de la radio, elle dit on transporte en nous tous les mythes qui sont sur les femmes qu'on apprend dès qu'on est, qu'on est gentil, qu'on est peureuse, qu'on n'est pas agressif, qu'on n'est pas qu'on se laisse facilement intimider, qu'on est je me souviens plus toute la liste, elle avait mis sur le tableau toute une série des listes, des caractéristiques qu'on nous colle sur le dos. Et elle disait, quand on fait une interview, il faut vraiment se placer autrement, c'est-à-dire casser tous ces schémas et partir sur d'autres bases. Donc, bon, ça a l'air évident qu'il faut avoir un minimum de confiance en soi, qu'il faut pas, par exemple, dans une technique d'interview... Bon, ça peut être méchant parce que parfois on interviewe des gens qu'on n'aime pas, des ennemis, donc il faut arriver en sachant très bien que nous on a raison ou qu'on ne veut pas en tout cas se laisser démonter. Et puis aussi, comment obtenir que quelqu'un parle, qu'il ne veut pas parler pour des raisons évidentes, justement parce qu'il ne veut pas dévoiler ce qu'il dit, ou aussi la manière dont on pose les questions. C'est évident qu'il y a certaines questions. Si on pose une question d'une telle manière où la personne ne répondra plus que par oui ou par non, ce qui donnera un interview relativement incolore, alors comment arriver à susciter des réponses qui soient plus riches? Et puis aussi par rapport à des femmes qui vont parler à la radio, qu'on interview, qui sont nos amies, et qui sont, bon, ça, nous on l'a vu aussi à Radio Pleine Lune, on est très vite intimidés par le micro, nous-mêmes, les femmes qu'on interviewe souvent, on sait qu'elles ont énormément de choses à raconter, puis devant un micro, elles disent plus rien, ou que des banalités, alors comment essayer d'introduire un climat de confiance qui fait qu'une femme va commencer à raconter les choses qu'elle pense vraiment et qu'elle fait vraiment. Alors ça, c'était, bon, très concret, mais... Bon, ça durait une heure, alors c'était pas Je ne vais pas dire que je suis devenue une spécialiste de la technique d'interview.
La mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.
À la fin de l'assemblée, il y avait une série d'ateliers de coopération, c'est-à-dire de mise sur pied, d'échanges ou de liens entre les radios. Et il y a eu une réunion de femmes pour mettre sur pied un réseau de femmes. Alors on s'est un peu posé la question de pourquoi l'importance d'un réseau. Et c'était clair que bon, les radios locales, elles sont insérées plus ou moins bien dans une communauté. Donc ça, c'est très important, mais les choses qu'on a à dire, on aimerait qu'elles dépassent un peu le réseau, le champ d'écoute d'une radio locale. Et donc, il faut mettre sur pied un réseau, en tout cas d'échanges d'informations, d'échanges de cassettes, d'échanges peut-être de personnes, qui sait, ce serait sympa d'aller travailler dans une autre radio. Et bon, on a fait cette assemblée, cette réunion avec plusieurs bonnes idées, mais qui ont été difficilement mises sur... on a pu difficilement les mettre en pratique, surtout pour des raisons de langue. On ne peut pas faire des échanges de cassettes avec des cassettes anglaises ou norvégiennes ou suédoises. Et donc, il y avait cette barrière, et puis surtout la barrière du fric. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de fric et que les femmes qui travaillent dans ces radios, elles donnent déjà énormément parce qu'elles travaillent tous comme bénévoles. Donc, elles doivent avoir un travail à côté. Elles ont parfois des gamins. Elles n'ont pas de fric du tout. Et ça, c'était vraiment une constante dans toutes les nanas que j'ai rencontrées. C'est ce manque viscéral de fric qui fait que c'est vachement dur de mettre sur pied une structure où il faut envoyer des journaux, il faut peut-être faire un bulletin, il faut pouvoir voyager, envoyer des cassettes, et ça, on n'avait pas d'argent. Donc on s'est dit, la première chose à faire, trouver du fric pour... l'idée, c'était de faire assez vite, peut-être pas cette année, l'année prochaine, une assemblée internationale des femmes dans les radios et des radios de femmes. Et ça, on va essayer de chercher l'argent pour pouvoir le mettre sur pied. On a commencé déjà à organiser une liste d'adresses des femmes dans les radios qu'on connaît et de faire circuler cette liste pour pouvoir de là contacter d'autres femmes et puis construire des petits réseaux autour de soi. Parce que bon, ce grand réseau, il se construira aussi quand il y aura déjà des mini-réseaux sur, par exemple pour nous, construire déjà un réseau autour de nous, autour des radios sympas qui sont en Haute-Savoie, à Lyon, dans la Drôme, en France. Faire assez vite une réunion des femmes francophones de la région ou plus, quoi, de France et de Belgique. Et là, mettre sur pied vraiment un échange de cassettes en premier lieu. Ça peut sembler facile de dire on échange les cassettes, je vous envoie les miennes, vous envoyez les vôtres, mais c'est pas si facile parce que de fait, pour qu'une cassette passe dans un autre pays, il faut que l'émission elle soit aussi pensée de façon plus large que uniquement quand on la pense parce qu'elle va passer autour des 30 km autour de mon émetteur. Donc il faut déjà avoir cette idée. Quand on fait une émission, donc il faut que cette idée de réseau, elle soit déjà là, dans une radio.
Parce que toi, tu disais, un réseau, c'est important parce qu'on ne veut pas faire entendre sa propre voix qu'à 30 km. Mais pour moi, c'est aussi très, très important que dans mon village, on puisse entendre des voix de femmes, enfin de gens en général, qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin. Si tu veux, c'est pas seulement, je crois, pour avoir soi-même un plus large taux d'écoute, c'est aussi, enfin pour moi c'est tout aussi important, c'est pouvoir amener des voix différentes, des expériences différentes dans ma petite radio si locale.
Oui, surtout que, malgré toutes ces divergences dont j'ai parlé, il y avait quand même un sentiment très fort, et puis j'ai rencontré des femmes que j'ai beaucoup aimées, des femmes vraiment fantastiques, et on voit qu'elles font un travail très important dans leur coin, et on aimerait que ça puisse être... que ces forces, ces énergies puissent être un petit peu mises ensemble.
Alors Radio Pleine Lune va faire une réunion des femmes francophones qui travaillent dans les radios, c'est ça?
Oui, peut-être, ça pourrait être une idée. Moi en tout cas j'ai lancé cette idée et je pense qu'on pourrait l'organiser, en tout cas celles qui nous écoutent, s'il y a d'autres femmes qui connaissent d'autres radios de femmes qui nous écoutent, téléphonez-nous ou écrivez-nous à Radio Pleine Lune, 7 Grand Rue, 01210 Ferney-Voltaire. On aimerait beaucoup savoir quelles sont les femmes qui font des émissions de femmes ou qui font des émissions dans des radios locales.
Et ce soir, on ne va pas commencer tout de suite notre grand réseau?
Oui, alors il y avait une partie de l'assemblée dont je n'ai pas parlé qui était très très sympathique. C'était une cassettothèque, c'est-à-dire que tout le monde avait amené des cassettes, soit des émissions que les gens aimaient bien, soit des émissions portraits de la radio, c'est-à-dire des montages d'émissions, et on pouvait les écouter. Alors il y avait il y avait 500, 600, peut-être même plus, cassettes qui étaient disponibles. Alors, on n'avait absolument pas le temps de les écouter, bien sûr, mais quand il y avait 5 minutes, on se précipitait. Et là, j'ai ramené une cassette qui vient de Rennes, une émission qui s'appelle « À tire d'aile ». C'est une émission de femmes sur Radio Vilaine. C'est donc une radio locale de Bretagne sur le thème « Femmes et pouvoir ».
Bon, alors voilà, ce soir, on va commencer donc nos échanges de cassettes avec des femmes qui font de la radio dans une autre radio. Nous allons donc écouter cette cassette qui vient de France, de Rennes, de l'émission À tire d'aile, sur le thème « Femmes et pouvoir ».
Alors, pour celles que ça intéresse,